40e leçon, détermination du résultat net. Il est déterminé par le compte pertes et profits. L'écriture est la suivante. Résultat d'exploitation, profit exceptionnel, profit sur exercice antérieur, A, pertes et profits. Rappelons que c'est le seul compte de gestion qui figure au bilan. 41e leçon. Bilan, clôture des livres et des comptes. Les comptes débiteurs sont à l'actif et les comptes créditeurs au passif. Toutefois, les amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs figurent à l'actif, mais en moins. Le dernier document à établir est le bilan que nous avons déjà étudié succinctement au début de notre cours. Le bilan va donc être le résumé de la situation de l'entreprise. Dans ce document figureront les comptes des classes 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du plan comptable. Les comptes débiteurs figurent à l'actif. Les comptes créditeurs au passif. Notons toutefois quelques exceptions. Les comptes amortissement et provisions se trouvent à l'actif, bien qu'étant créditeurs. On les porte en soustraction des comptes auxquels ils se rapportent. Le compte de l'exploitant est ajouté au capital s'il est créditeur et soustrait s'il est débiteur. Les comptes de charges et de produits ont été soldés par exploitation générale. Les comptes figurant au bilan n'ont pas été soldés. Or, en fin d'exercice, les comptes doivent être fermés. Pour cela, nous avons le choix entre deux méthodes. La première consiste à débiter les comptes créditeurs par le crédit des comptes débiteurs. Pour la seconde, nous utiliserons le compte bilan de clôture. Il est débité par le crédit des comptes débiteurs et crédité par le débit des comptes créditeurs. Puisqu'au bilan, actif égale passif, les comptes débiteurs sont donc égaux aux comptes créditeurs, d'où bilan de clôture est lui-même soldé. 42e leçon. Réouverture des livres et des comptes. Même méthode que pour la clôture. Nous pouvons débiter les comptes débiteurs par le crédit des comptes créditeurs. La deuxième méthode consiste à employer un compte bilan d'ouverture qui est tout de suite soldé. Il est toutefois recommandé d'utiliser la même méthode que celle que vous avez choisie pour la clôture. 43e leçon. Impôt sur les bénéfices et répartition des résultats. L'imposition est de 50% sur les bénéfices. Après déduction des impôts, l'entreprise va répartir ses bénéfices. La répartition se fait suivant certains critères établis à l'avance. En effet, une partie des bénéfices peuvent être mis de côté en vue d'un investissement. Ce sont les réserves. Le commerçant peut décider d'emporter une fraction en augmentation du capital. L'exploitant ou la société peut faire un prélèvement sur la banque ou sur la caisse. S'il y a eu une perte l'année précédente, elle est déductible du bénéfice présent. Les pertes sont portées dans un compte appelé report à nouveau. Dans le cas d'un exploitant seul, si celui-ci à effectuer des prélèvements en cours d'année, il faut les déduire du bénéfice en soldant le compte de l'exploitant. 44e leçon, TVA, taxe valeur ajoutée. Impôt indirect auquel sont assujetties toutes les entreprises françaises. Considérons un commerçant qui a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 195 123 au mois de mai. La TVA sur ses ventes s'élève à 44 1877. Au mois de mai, lorsqu'il reçoit la facture, il passe. Client 240 000, à vente 195 123 et TVA sur vente 44 877. Le compte vente doit toujours être tenu hors taxe. Il faut faire ressortir la TVA. Bien que le commerçant ne paie pas la totalité à l'État, puisqu'il en paiera une partie à son fournisseur, il doit constater la charge en passant l'écriture. TVA 44 877, c'est un sous-compte d'impôts et taxes. TVA du 44 877, c'est un sous-compte d'État. Il constate une dette. Au mois d'avril, ce commerçant avait acheté pour 138 400 de marchandises, sur lesquelles il a dû payer au fournisseur 41 400 de TVA. À la réception de la facture, il a passé. Achat 138 400, TVA à récupérer 41 400, c'est un sous-compte d'État, puisqu'il a payé cette partie au fournisseur. Cela diminue sa dette vis-à-vis du fisc. À fournisseur, 180 000. En réalité, notre commerçant devra donc payer aux contributions indirectes 44 877 moins 41 400 égale 3 477. N'oublions pas que tout calcul en comptabilité se traduit par une écriture. TVA due 41 400, TVA à récupérer 41 400. Si nous tirons le solde du compte TVA due, nous voyons qu'il est créditeur de 3 477, somme que nous versons réellement à l'administration. Ce compte sera soldé lors du règlement par le crédit du compte banque. 45e leçon, coût et prix de revient. Prix d'achat plus frais de transport égale coût d'achat. Coût d'achat plus frais de fabrication égale coût de production, coût de production plus frais de vente égale prix de revient. Quarante-sixième leçon, matière, main-d'œuvre. Méthode d'enregistrement des marchandises livrées en magasin. Les matières. La fiche de stock tenue par la comptabilité analytique est semblable à la fiche de casier, mais cette fois, on ne se contente plus de reporter les quantités, elles sont valorisées. Les entrées en stock sont valorisées au coût d'achat. Pour les sorties, plusieurs méthodes sont utilisées. Premièrement, le coût moyen pondéré de fin de période. Les sorties ne peuvent être valorisées qu'à la fin de la période. Coût moyen est égal à stock initial plus les entrées en valeur, le tout divisé par stock initial plus les entrées en quantité. Deuxièmement, le coût moyen pondéré après chaque entrée. Les sorties peuvent être évaluées au fur et à mesure où elles ont lieu, mais les calculs sont fastidieux. Troisièmement, première entrée, première sortie. Dans cette méthode, on considère que les marchandises achetées les premières sont les premières utilisées. Elles sortent à leur coût d'achat. La main-d'œuvre. En ce qui concerne la main-d'œuvre, la comptabilité analytique est chargée de contrôler le travail grâce à certains documents, fiches de pointage, bons de travail, fiches d'instruction. Quarante-septième leçon, les charges de l'entreprise. Charges directes et charges indirectes. Les charges directes concernent un seul coût. Les charges indirectes concernent plusieurs coûts. Il est évident que tous les frais doivent entrer dans le calcul du prix de revient. Comment allons-nous pouvoir incorporer les charges indirectes? Cette incorporation va être faite en plusieurs temps. Il faut d'abord reclasser les charges, c'est-à-dire ne plus utiliser un classement par nature, comme le fait la comptabilité générale, mais un classement par fonction. C'est ainsi que le compte frais de personnel va se voir divisé en frais de production, frais de distribution. Ceci est valable pour tous les frais. Ils pourront ainsi être incorporés au coût. La difficulté réside dans les frais dits généraux. À quel coût faut-il les imputer? On pourrait les ajouter globalement, notamment lorsque l'entreprise ne fabrique qu'un seul produit. Cette méthode est peu utilisée. On emploie des clés de répartition. La méthode dite des sections homogènes est la plus employée. Elle est basée sur la division de l'entreprise en services, ateliers. On obtient ainsi le total des frais pour chaque section. Ils seront répartis ensuite entre les produits fabriqués. Si nous étudions l'application, nous voyons que les frais par nature, communiqués par la comptabilité générale, sont reclassés en frais par fonction, administration, finition, etc. Les frais d'administration, que l'on appelle encore frais généraux, sont répartis entre les sections principales suivant des clés établies à l'avance. Les sections que l'on répartit ensuite, comme ici la section administration, sont appelées sections auxiliaires. À chaque section correspond une unité d'œuvre qui permet de calculer les coûts unitaires. Ceci permet de déterminer le prix de revient du produit. Il est en effet facile de savoir combien de temps l'ouvrier a passé pour terminer l'objet. Connaissant le coût unitaire, c'est-à-dire le prix de revient d'une heure de travail dans l'atelier de finition, il est aisé de calculer à combien revient la fabrication de cet objet, puisque le principe est le même pour toutes les sections où il passe. Quarante-huitième leçon. Résultat analytique. Il est égal au prix de vente moins le prix de revient. Et ceci pour chaque catégorie de produits. Analyse de l'exemple du livre. Nous voyons que la comptabilité générale aurait déterminé un résultat global de 28 000, ce qui est satisfaisant puisqu'il s'agit d'un bénéfice. Une étude plus approfondie nous permet de faire ressortir un résultat, certes favorable, mais le fait est que nous fabriquons tout de même un produit à perte, ce qui est anormal.